Douiman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation regrettent les réformes entreprises dans le système éducatif burundais, disant qu'ils n'ont pas apporté de plus-value. C'était ce jeudi sur les radios partenaires de l'ONG La Benevolentia. Parallèlement, le ministre François Habyarimana a déclaré dans une émission conjointement animée par la RTNB, la Radio Nationale et la Radio Nderagakura qu'environ 1800 enseignants du fondamental et du post-fondamental ont abandonné le service depuis le mois d'août 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. On fera le point dans ce journal. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, demande au chef de l'État et président de l'Union africaine de tout mettre en œuvre pour assurer la protection effective des travailleurs migrants burundais qui font face à diverses difficultés. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le manque d'engrais chimiques a fait chuter de moitié la production des complexes teicoles de Rouébura en commune Kayanza et de Teza en commune Matongo. Nous sommes dans la province de Butanyerera. Notre correspondant nous donnera des détails. Et dans la chronique de ce vendredi, un enseignant-chercheur en environnement nous expliquera que les déchets déposés dans la décharge de Mouronné peuvent être diversement valorisés. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, demande au chef de l'État et président de l'Union africaine de tout mettre en œuvre pour assurer la protection effective des travailleurs migrants burundais qui font face à diverses difficultés. Célestin Savimana l'a déclaré dans un message de félicitations adressé au président Ndayishimiye à l'occasion de son accession à la présidence tournante de l'Union africaine. Il souhaite également la promotion d'accords de travail garantissant la dignité et la sécurité de ces travailleurs, ainsi que le renforcement du dialogue bilatéral et multilatéral.
Vous voyez, nous avons des jeunes Burundais, Burundaises qui sont partis dans les pays voisins. Si vous suivez bien l'actualité, ils sont malmenés, violentés, refoulés sans ménagement, battus. Il y a même ceux qui sont violés. Alors ça sera l'occasion de que son Excellence puisse prendre contact avec les responsables de ces autres pays pour que nos compatriotes soient bien traités et que la dignité humaine soit sauvegardée et que tous ceux qui travaillent, disons que les réglementations en matière du travail de ces pays, soient applicables. Je ne dis pas, il y a peut-être ceux qui peuvent ne pas avoir de papiers demandés par ou des documents pour résider dans ces pays. C'est pas un problème. Ils peuvent être, s'ils sont expulsés, qu'on les traite dignement, mais qu'on ne les frappe pas, qu'on ne les violente pas, qu'on ne confisque pas les avoirs. Ça a été donc pour nous une heureuse occasion. Alors nous avons sollicité, comme je vous ai dit, que son Excellence s'investisse dans la protection effective de ces travailleurs et travailleuses migrants. Donc, comment les protéger? Il y a une réglementation en matière. Si nous nous référons, par exemple, à des conventions internationales de l'OIT, je pense qu'il y a la convention 95, je pense, sur les travailleurs migrants. Il y a d'autres conventions. Autre chose que nous demandons, c'est toujours que son Excellence initie un dialogue avec ces pays ou un dialogue multilatéral. Je sais que le Burundi dispose déjà de conventions avec certains pays du Golfe. Donc en matière de travail, mais malgré ces conventions, ces travailleurs et travailleuses, il y a certains ou certaines qui sont malmenés. On confisque les documents de travail, on les frappe, on les donne un salaire qui n'est pas proportionnel au travail effectué ou aux heures de travail. C'est une occasion alors que son Excellence puisse demander l'application rigoureuse des prescrits qui sont dans ces conventions.
C'était Célestin Savimana, il est président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Les deux employés du magazine Jimbere, le journaliste Olivier Manirambona et la photographe Aline Nionizeye, ont été remis en liberté. Ils avaient été interpellés mercredi à Mutanganor, en mairie de Bujumbura, alors qu'ils s'apprêtaient à réaliser un reportage. Le tribunal de grande instance de la commune Nahangwa devait ce jour-là procéder à la remise officielle d'une parcelle. En procès de flagrance était attendu ce vendredi, mais il n'a finalement pas eu lieu. Le procureur général, après la cour d'appel de Nahangwa, Erastenda Iragije, a annoncé qu'une décision de mise en liberté provisoire avait été prise. Il a précisé que la priorité a été accordée au respect de leur liberté, ajoutant qu'ils ont également récupéré leur matériel de travail. Et l'association de lutte contre le chômage et la torture, Alchoto, salue la décision de la justice. Son coordinateur Vianney Ndayisaba estime que la justice a pris une bonne décision en libérant les deux journalistes. Selon lui, au moment où le chef de l'État vient d'accéder à la présidence de l'Union africaine, leur maintien en détention aurait terni l'image du pays. Les complexes théicoles de Rwegura en commune Kayanza et de Teza en commune Matongo dans la province de Butanyerera accusent une baisse remarquable de la production du thé à un taux de 50%. Et cela à cause du manque d'engrais chimiques à appliquer dans les plantations. Ce constat est confirmé par les gérants de ces usines. Les théiculteurs à Kayanza et Matongo appellent le gouvernement à trouver une solution durable à ce problème. Correspondance, Patrick Saint-Guillaume.
Certains producteurs du thé des communes Kayanza et Matongo avec lesquels nous nous sommes entretenus disent qu'ils ne reçoivent pas convenablement des engrais à appliquer dans les plantations théicoles. La situation qui, d'après eux, a entraîné une forte baisse de la production de cette culture industrielle. Cette culture donne l'exemple d'une plantation du thé qui produisait les derniers jours une tonne et qui ne produit aujourd'hui que 300 kg. Oda Saint-Chimili, manager du complexe théicole de Teza dans la commune et Matongo, confirme les informations fournies par cette culture. Il indique qu'entre l'an 2020-2021, la production atteignait environ 10 tonnes, mais que l'année passée, on n'en a eu que 50 tonnes suite à cette indisponibilité des engrais à appliquer dans les champs théicoles. Même propos avec Roland Daichimie, chef de plantation à l'usine du thé de Gwegura en commune Kayanza. Celui-ci fait savoir qu'aujourd'hui, on a une production du thé estimée à 50 tonnes contre 100 tonnes les dernières années pour une même période. Les producteurs du thé des communes les Matongo et Kayanza dans la province de Butanyerera demandent au gouvernement burundais de prendre en main cette question de la pénurie des engrais à appliquer dans les champs théicoles. Il y plaide également pour l'augmentation du prix d'un kilogramme des feuilles vertes du thé, expliquant que le prix des produits de première nécessité continue à grimper beaucoup au marché. Depuis Kayanza dans la province de Butanyerera, Patrick Senguva pour la radio Isanganiro.
Nous poursuivons ce journal. Je vous l'avais dit dans les titres, certains acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation ainsi que des hommes politiques estiment que les réformes opérées dans le système éducatif burundais n'ont apporté aucun progrès. Ils l'ont déclaré au cours d'une conférence publique diffusée en synergie par les radios partenaires de l'ONG La Bénévolentia. C'était ce jeudi soir, dans le cadre d'un échange visant à analyser et à réfléchir sur les stratégies adoptées pour améliorer la qualité de l'éducation. Pour eux, il faudrait rétablir l'ancien système éducatif, tandis que d'autres pensent à la révision du système actuel. Alexis Ndayisenga.
Certains acteurs du secteur de l'éducation ainsi que des hommes politiques se préoccupent de la situation de l'éducation burundaise. Ce jeudi soir, ils se sont réunis pour échanger sur les changements intervenus dans ce secteur, les avancées réalisées ainsi que les mesures à prendre afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi. Le professeur Godefroy Gahungu, expert en sciences de l'éducation et enseignant à l'université, a indiqué que les moyens alloués à ce secteur ont diminué alors que le nombre d'élèves continue d'augmenter. De son côté, Olivier Nkurunziza, président du parti IPRONA, a affirmé que le secteur de l'éducation a régressé en raison notamment du favoritisme dans l'attribution des emplois et du manque de matériel didactique. Alors que plusieurs participants à la conférence demandent le retour à l'ancien système éducatif, d'autres ne partagent pas cet avis, estimant que le véritable problème réside dans la mise en application des réformes. Entre-temps, 4 ans se sont écoulés depuis la tenue des états généraux consacrés aux défis du secteur éducatif. Parmi les recommandations figurait le retour à l'ancien programme scolaire. Mais selon les intervenants, aucune des propositions formulées n'a été mise en œuvre. Les participants à cette conférence demandent au gouvernement d'augmenter les moyens alloués à l'éducation, de rétablir l'ancien système aussi bien dans les écoles secondaires que dans les universités et de motiver les enseignants. Selon eux, si la situation actuelle persiste au Burundi, le développement du pays restera impossible.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique fait état d'environ 1800 cas de départ d'enseignants du fondamental et du post-fondamental depuis le mois d'août 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. C'est le bilan présenté par le ministre François Habyarimana dans une émission animée en synergie ce jeudi par les radios nationales et Nderagakura. Même s'il admet que la question des conditions de vie fait partie des causes de ces départs, il estime que les crises géopolitiques et l'épidémie du Covid-19 en restent les principales. Suivez ses explications.
Mpereye ku mashure shingiro na nyuma y'ishure shingiro ibitigiri by'abigisha bari ko baragenda batakazi ni byinshi.
Les effectifs de départ d'enseignants au fondamental et au post-fondamental sont élevés. Ils atteignent près de 1800 depuis le mois d'août 2025 jusqu'au mois de janvier 2026 en date du 17. Parmi ces effectifs, 6 à 78 enseignants ont déserté pour rejoindre le travail migrant. Ces effectifs sont aussi élevés pour les enseignants des universités depuis l'année 2020. Des chiffres à notre disposition montrent que les départs des docteurs atteignent 47. Vous comprenez que ces effectifs sont élevés si l'on considère les investissements passés dans leur formation. La perte est énorme. Les enseignants du fondamental, du post-fondamental, comme ceux des universités, qui partent estiment que le salaire est insuffisant. Nous l'admettons, mais nous voyons qu'en grande partie, ces départs sont dus aux mutations qui s'opèrent au niveau mondial. L'apparition de la COVID-19 a changé beaucoup de choses. La guerre en Ukraine et dans d'autres parties du monde aussi. Ces crises ont appauvri le monde, ce qui a affecté les économies nationales. Les produits de l'exportation sont devenus plus chers, et la vie est ainsi devenue difficile.
Actualité, internationale.
L'ambassade de France en RDC a confirmé la présence d'officiers de l'armée française à Kisangani dans le cadre du programme de coopération militaire entre les deux pays, principalement déployés auprès d'un bataillon jungle. Ils interviennent à des seuls fonds de formation. Cette initiative destinée à former de nouveaux militaires congolais doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars, à un moment où les bataillons jungle des FRDC ont été particulièrement éprouvés par les affrontements qui ont eu lieu dans l'est du pays en 2024 et en 2025, selon des sources sécuritaires. Et la justice marocaine s'est prononcée ce jeudi 19 février à Rabat à l'issue du procès des 18 supporters sénégalais dont français qui avaient été arrêtés lors des heurts survenues durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Tous sont condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel. Vous savez que le Maroc a accueilli la 35e édition de la CAN du 21 décembre au 18 janvier et co-organisera la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.
Radio Isanganiro, chronique environnement.
Dans la précédente chronique, Dr Norbert Manirakiza, enseignant à l'École normale supérieure et chercheur en environnement, a expliqué que les maladies respiratoires ou les cancers figurent parmi les effets néfastes pouvant toucher les personnes vivant à proximité du site de décharge des déchets de la ville de Bujumbura de Mubone, c'est dans la zone Buterere. Dans cette chronique, aujourd'hui, cet expert précise que les déchets accumulés sur ce site peuvent aussi générer de l'électricité ou pourraient être valorisés pour produire du gaz utilisable dans la cuisson. Cette chronique environnement est signée Lydie Gahimbare.
faire le triage des déchets par catégorie dès la source ou à l'arrivée au site et mettre de côté les déchets biodégradables et les non biodégradables ou les plastiques de l'autre côté pour les recycler serait le moyen le plus efficace pour gérer les déchets déposés au site de Mouboné dans la zone de Buterere et limiter leurs défis. Explication du professeur Nombe Manila Kidza, enseignant et chercheur à l'école normale et supérieure et expert en sciences de l'environnement.
Et la première étape essentielle et le tri des déchets à la source par catégorie. Et chaque fraction de déchets peut suivre sa propre filière de valorisation. Les déchets biodégradables peuvent être traités par compostage contrôlé, les plastiques et les métaux pouvant aussi être recyclés, tandis que les déchets dangereux, comme les déchets pharmaceutiques ou hospitaliers, peuvent être pris en charge par des filières spécialisées.
Cet expert en sciences de l'environnement explique également que dans les pays avancés, les déchets sont considérés comme une source énergétique. Selon lui, cela est possible aussi pour le Burundi où les déchets biodégradables peuvent être valorisés sur le plan énergétique.
Dans de nombreux pays déjà avancés, les déchets constituent une ressource. Cela peut également être de même ici chez nous. Par exemple, pour le cas des déchets biodégradables qui représentent une part importante aux environs de 70% des poubelles de la ville de Bujumbura, ces déchets peuvent être valorisés sur le plan énergétique. Premièrement, on peut faire les briquettes écologiques qui peuvent être une source de cuisson alternative au charbon de bois, ce qui contribuerait à la production des forêts. Ailleurs, on peut également faire la biométhanisation qui permet de produire le biogaz à partir de ces déchets. Alors, une énergie propre pourrait provenir alors de ces déchets organiques pour servir à la cuisson, à l'éclairage ou même à la production d'énergie électrique.
Professeur Nobe Manila Kiza, enseignant et chercheur à l'école normale supérieure, conseille la population burundaise de voir les déchets comme une source de l'énergie, mais pas seulement de la problématique.
Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.